donc je vais rapidement brosser le cadre de Paris dans les années 80, ensuite de Paris dans les années 90, et nous allons arriver en 2000. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que notre ville est la ville idéale pour assassiner tous ses opposants. Peu de gens savent que si on doit faire la liste des opposants politiques de tous les continents, ça va de la Tchétchénie en passant par l'Afrique, il y en a 400 qui ont été assassinés à Paris. Et quand je dis Paris, c'est vraiment Paris intramuros. Par exemple, M. Messili a été assassiné boulevard Saint-Michel à deux pas d'ici. Je veux dire, en bas de chez lui. M. Houtel-Bounou, le leader de l'indépendance du Tchad, a été assassiné rue Le Courbe, en face de chez lui. Je veux dire, M. Ben Barka a été enlevé devant la brasserie Lip, à deux pas de M. Messili. Je veux dire, donc, il ne faut pas s'imaginer à quel point, pour certaines personnes, venir à Paris, c'est un danger. Moi, je me rappelle, en 1994, lorsque j'ai demandé à des opposants de la Guinée-Équatoriale de venir me rencontrer à Paris, ils ont dit « Ah, certainement pas. C'est trop dangereux, Paris. » J'ai dit « Non, mais attendez, ça ne peut pas être plus dangereux que la Guinée-Équatoriale. » Ils ont dit « Non, nous, on préfère que vous veniez à Madrid, mais nous, on ne viendra pas à Paris se faire assassiner comme d'autres. » Et c'est là où, effectivement, j'ai réfléchi, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient raison. Paris a une longue tradition d'assassinats politiques. Et il se trouve, malheureusement, et ce n'est pas pour retirer la valeur du discours de Mme Borrell, mais malheureusement, étant donné que dans notre pays, il a été si facile, et il est encore très facile, d'assassiner des opposants et des combattants de la liberté, il ne faut pas s'étonner, quelque part, du retour de bâton. Et pour moi, le retour de bâton le plus manifeste, c'est le traitement qu'on a infligé aux coopérants. Et pour moi, le plus emblématique de tous les dossiers de coopérants, c'est celui du dossier de M. Borrell. Et donc, nous allons donc commencer par tout ce qui est assassinat politique. M. Messili a été assassiné en 87. Donc, M. Messili, c'est ce qu'on appelle la suite de la guerre d'Algérie. Bien. Alors, le problème, c'est que je ne souhaite pas prendre la parole par rapport à cet assassinat, parce que j'estime que c'est la parole de l'association Mémoire, Vérité et Justice. Donc, il y a un document dans la revue de presse. Je vous renvoie au site qui est très bien fait. Et notamment, il est tenu donc par toutes les familles qui se sont constitués en association et qui luttent justement pour que la vérité soit dite. Et leur dernier succès, ça a quand même été d'obtenir qu'une plaque soit posée devant l'IP pour M. Ben Barka. Et ça a été d'obtenir enfin qu'un juge d'instruction français, et pas n'importe lequel, se déplace à Rabat et commence l'enquête sur la disparition de M. Ben Barka. Ce juge s'appelle M. Patrick Ramael. Et ce juge est chargé d'un dossier d'une disparition d'un journaliste français qui a disparu le 16 avril 2004 à Abidjan. Il s'agit de M. Kiefer. Parce que Mme Borrell n'a peut-être pas eu le temps de vous expliquer à quel point dans ces dossiers, nous retrouvons parfois les mêmes adversaires et surtout nous retrouvons parfois le même personnel, entre guillemets, judiciaire. Donc, Mme Borrell vous a présenté par exemple une de ses collègues qui avait une excellente réputation, mais Mme Borrell pensait peut-être... croyez peut-être la réputation de Mme Mourakini dans les années 90, mais ceux qui connaissaient le dossier de Mme September, eux savaient très bien que Mme Mourakini c'était un vrai désastre, parce qu'il y a eu en 88 l'assassinat de la représentante de M. Mandela, Mme Lucie September, à Paris. Et il y a eu la mobilisation de la société civile qui était notamment contre la politique d'apartheid qui était menée à cette époque-là en Afrique du Sud pour obtenir la vérité. Et il y avait à l'époque un dossier dans lequel était mis en cause le fils du président de la République de l'époque, M. Mitterrand, donc Jean-Christophe Mitterrand, qui était le dossier Mistral. Or, il se trouve que le dossier Mistral était instruit par Mme Mourakini. Donc, depuis les années 80, tous ceux qui luttaient pour donner la vérité dans le dossier de Mme September avaient une très très mauvaise opinion de Mme Mourakini. Donc quand ils ont appris qu'un dossier emblématique comme celui de M. Borrell allait être confié à cette magistrate, ils ont surtout, via M. Verschave, alerté Mme Borrell en lui disant que, mon Dieu, elle allait avoir beaucoup de problèmes. Ce qui s'est vraiment avéré. Ils ont malheureusement eu raison. Et il se trouve qu'une partie des gens qui s'occupent du dossier de Mme September étaient d'autant plus intrigués de ce qui se passait dans le dossier Borrell qu'il y avait des réseaux, il y avait des hommes politiques bien précis qui avaient déjà agi dans ce dossier et qui étaient devenus les opposants de Mme Borrell. Et je pense à l'un d'entre eux, emblématique, qui est M. Michel Roussin. Alors, pour savoir ce que M. Michel Roussin a à voir dans le dossier de Mme September, je vous renvoie donc à la table de presse qui est derrière moi, qui est tenue par la charmante bénévole de Survic, Claude, dont Mme Borel parlait à l'instant. Il y a le livre de M. Verschave, qui a été attaqué par M. Charles Pasqua, qui a pour titre « La France-Afrique ». Et dedans, il y a le meilleur chapitre, qui a été consacré sur l'assassinat de Madame Borel, de Madame, pardon, excusez-moi, le lapsus de Madame September, qui s'appelle, pas encore, oui, lapsus. Ça, c'est la perle de, ben, c'est comme le canard enchaîné qui parle du juge Boyer au lieu de marquer Borel. Ça, c'est une perle. Et donc, il y a un chapitre qui s'appelle Dulcie doit mourir. Donc, je vous renvoie à ce chapitre parce que même les Sud-Africains qui avaient pris connaissance de cet ouvrage l'avaient salué parce qu'il faisait la synthèse de tout ce qui est, de tous les intervenants et tous les protagonistes autour de ce dossier. Donc il faut savoir que Michel Roussin a joué un rôle non négligeable dans ce dossier et M. Jean-Christophe Mitterrand est cité dans ce dossier. Donc, et l'instruction de une partie donc de ce dossier, c'était Mme Moracchini. Donc en 94, pourquoi est-ce que Mme Borel insiste tant sur l'année 1994 ? Pour survie, l'année 94, elle est décisive. Comme vous l'a dit la présidente de la Fédération Paris-Île-de-France, 94, c'est le génocide des Tutsis, et c'est là où les gens de survie, M. Verschave en tête, constatent que c'est pas tout de lutter contre la faim, qui était le premier objectif de survie. Il faut justement empêcher qu'il y ait des causes qui amènent à la destruction des populations. Et M. Verschave étant économiste, il savait, comme beaucoup d'économistes, qu'il n'y a plus de famine naturelle. Tout est entretenu. Donc il fallait s'attaquer aux causes de l'état dans lequel on maintenait les populations en Afrique. Donc ils ont décidé de changer l'objet de survie, qui est donc la lutte contre la France-Afrique. Et dedans, ils se sont aperçus qu'il y avait des réseaux ici et là-bas, et qu'on les retrouvait dans un certain nombre de dossiers et qu'on pouvait faire une espèce de connexion entre tous les dossiers. Alors, la première connexion qui a été faite dans le dossier de Mme September a été le fameux réseau de mercenaires qui était basé aux Comores, et c'est le fameux réseau des mercenaires de M. Bob Denard. Donc, la société civile a obligé les enquêteurs, et il y a eu beaucoup de juges dans le dossier September qui n'ont pas fait leur travail, Mme Moracchini en tête, ils les ont obligés à, si j'ose dire, à convoquer ces mercenaires, parce qu'on savait que l'Afrique du Sud avait tout intérêt à tuer Mme September. On ne savait pas pour quelle raison ? Mais on savait que ça avait pour partie lié au trafic d'armes entre l'Afrique du Sud et l'Europe. On savait qu'il y avait un contournement de l'embargo, notamment qui était surtout, je dirais, la tête pensante de ce contournement de l'embargo était surtout Mme Margaret Thatcher, qui était le Premier ministre britannique. Donc il fallait enquêter sur ces réseaux-là et personne ne voulait le faire vraiment à Paris. Pourquoi ? Parce que ils sont en majorité français ou ils sont entretenus par la France-Afrique, justement. Donc, de tous ces combats-là, on a commencé à voir émerger une catégorie de juges qu'on va retrouver dans d'autres dossiers, et notamment dans le dossier de Mme Borel, parce qu'ils vont devenir ses adversaires. Donc, nous avons le rôle de M. Michel Roussin dans le dossier September. M. Michel Roussin, pour le public que vous êtes, si vous n'êtes pas vraiment passionné de la France-Afrique ou de ce qui se passe en Afrique, vous savez que c'est un nom qui apparaît dans les années 90 dans le financement du parti politique RPR, qui est devenu depuis l'UMP. Donc vous savez que ce monsieur a été pendant 10 ans le chef de cabinet à la mairie de Paris de M. Chirac, qui entre-temps était maire de Paris, mais est devenu notre président de la République. Que l'on voit d'ailleurs dans le documentaire recevoir M. Guélet, lui donner la Légion d'honneur et demander à son ambassadeur de donner les insignes du commandeur de la Légion d'honneur à M. Zakaria. Donc voilà. Et je peux vous dire que M. Guélet est reçu régulièrement à Paris. Donc, en 94, il y a la cohabitation. C'est ce qu'on a appelé le premier gouvernement de M. Balladur. Michel Roussin est nommé ministre de la coopération. Le ministre des Affaires étrangères est un certain M. Alain Juppé. Je précise bien, parce qu'ils vont tous jouer un rôle décisif dans le dossier dit de la Guinée-Équateur, mais ils vont jouer aussi un rôle décisif dans le dossier Borel. Donc, M. Michel Roussin se retrouve ministre de la coopération. Et qui est son chef de cabinet ? C'est un certain M. Mouline. Fin 94, alors que M. Borel et un certain nombre de gens travaille dans le dossier du Café de Paris et que M. Borrell, donc, à Djibouti, s'attaque aux responsables, enfin, à ceux qui ont commis l'attentat du Café de Paris et les remet en prison, on envoie à Djibouti M. Mouline, qui devient son supérieur hiérarchique. Le 19 octobre 1995, le premier officiel qui envoie un telex diplomatique pour dire que c'est un suicide, c'est le supérieur hiérarchique de M. Borrell, c'est M. Mouline. Et donc c'est pour ça que le seul article, justement, pour parler de la Guinée équatoriale, est l'article dit coopération empoisonnée, parce que, justement, Mediba a d'abord écouté attentivement toutes les connexions, tous les fils que M. Verschave tirait de toutes les enquêtes, de tout ce que venait lui dire à propos de tous ces dossiers. Et il a essayé de faire un fil conducteur entre tous ces dossiers de coopérants assassinés. Et il a essayé justement de démontrer que des dossiers aussi différents que l'assassinat d'un économiste en février 1993 à Malabo, l'assassinat d'un médecin, le docteur Desgranges, à Bata en août 1993, l'assassinat d'un juge français à Djibouti, vous vous retrouvez avec les mêmes juges et avec les mêmes personnels politiques, que ce soit dans les pays concernés que à Paris. Donc ça veut bien dire qu'on ne peut pas traiter ces cas-là de façon isolée, ou alors il faut soit faire des associations ou faire des sites internet. Donc je renvoie au site internet de M. Charles, je renvoie au site internet donc, que j'ai décidé d'animer et que j'ai mis sur place justement pour mettre toutes les connexions entre plusieurs dossiers aussi différents que possible. Et on se rend compte, au fur et à mesure que l'on traite ces dossiers, et Mme Borrell, qui est justement la présidente d'une association qui s'occupe de tous les crimes commis à l'étranger envers des parties françaises, on se rend compte qu'il y a une espèce, non seulement de modus operandi, mais il y a un fonctionnement des autorités, qu'elles soient judiciaires ou policières ou politiques, qui est le même face aux parties civiles et aux familles qui sont désemparées. Elles ont perdu un proche. Et je peux vous dire que ce qu'on a opposé à Mme Borrell, c'est la même chose qu'on a opposé à Mme Branger, la veuve du premier, ce qu'on a cru pendant très longtemps comme étant le premier coopérant assassiné en Guinée équatoriale. Mais je me suis rendu compte en enquêtant, non pas sur place, mais en écoutant les Équato-Guinéens en exil qui ne voulaient pas venir à Paris parce que pour eux, Paris, c'était vraiment la ville de tous les dangers, et je ne plaisante pas en disant cela, qu'en fait, il y avait d'autres coopérants qui avaient été assassinés bien avant, et que donc, il y avait une espèce d'omerta, il y avait une espèce de fractionnement des dossiers. On s'arrange pour que les dossiers ne soient pas réunis dans les mêmes juridictions, on s'arrange pour que des juges qui ont une partie du dossier ne s'intéressent pas à telle autre partie. Enfin, je veux dire, il y a un traitement qui est vraiment fait pour que la justice ne soit jamais rendue ni aux familles et encore moins aux victimes. Et c'est en ça que c'est le scandale. Et ne vous imaginez pas une seconde que le cas Borrell est un cas à part. Je veux dire, quand on regarde, par exemple, un autre cas de figure, vous avez vu dans le documentaire le soi-disant médecin légiste, le chef des médecins légistes de Paris, Madame Dominique Lecomte, encordé, soi-disant, pour faire une reconstitution et pour démontrer que M. Borrell s'est bien suicidé. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est Mme Dominique Lecomte qui a fait un certain nombre des autopsies dans certains dossiers d'assassinat de coopérants, et que justement, mon premier combat, notamment dans le dossier du docteur Desgranges, ça a été que l'autopsie soit pratiquée correctement. Pourquoi ? Parce que dans le premier dossier, que je pensais être le premier dossier, qui est le dossier de M. André Branger, eh ben, il n'y avait plus de corps, étant donné que le corps avait été incinéré avant que Mme Branger n'arrive. C'est-à-dire, je veux dire, Mme Branger, on la prévient par téléphone que son mari est mort, d'une mort violente à Malabo, en Guinée équatoriale, on rapatrie le corps, on incinère le corps, elle arrive, on lui donne une urne avec le corps de son. On dit, voilà votre mari. Mais je veux dire, c'est ça. Donc, je vous laisse à penser si on avait fait la même chose à Mme Borrell pour le corps de son
époux. Non, mais j'étais sur place, c'était plus difficile.
Voilà, mais Mme Branger, elle était à Carcassonne. Donc, le temps de se rendre à Paris, et comme on s'était arrangé pour qu'elle n'arrive pas à temps, je veux dire, elle est arrivée, l'urne l'attendait tranquillement. Alors, essayez après d'avoir une seconde autopsie sur le corps d'André Branger. Donc, le combat suivant, ça a été d'obtenir une autopsie correcte qui soit faite dans le docteur Desgranges. Et je peux vous dire, moi, j'ai le dossier, j'ai copie du dossier d'autopsie, il y a la signature de Dominique Lecomte. Alors, vous imaginez ma stupéfaction quand j'apprends qu'elle va s'occuper du dossier de M. Borrell. Alors, je dis à François-Xavier, au secours, prévenez Mme Borrell, ça va être l'horreur. Et malheureusement, je veux dire, moi, je précédais de peu certaines parties civiles du dossier September qui disaient « Mon Dieu, prévenez Madame Borrell que pour la Morachini, ça va être une horreur. » Moi, j'arrive 3 mois après, Dominique Lecomte, pour Madame Borrell, « Non, mais prévenez-la, attendez et François Xavier, à l'époque, puisqu'il est décédé, disait « Mais Mariama, je ne vous ai pas attendu, je ne vous attends pas, je veux dire, j'ai billet d'Afrique, qui est la publication de survie, et d'ailleurs, je vous renvoie aux 2 derniers numéros où on a fait le compte-rendu de la conférence de presse de Madame Borrell et du procès de Monsieur Jean Houchal. Je vous renvoie aussi de survie où justement se trouvent tous les extraits sur tous les dossiers, parce que François-Xavier Verschav a commencé à écrire sur tout ce qui se passait dans contre la France-Afrique depuis 1993. Donc vous pouvez retrouver des vieux articles, et souvent on se rend compte qu'il avait une pression sur ce qui allait arriver, et il avait eu la plus grande admiration pour le combat de Madame Borrell, parce qu'il sentait que Madame Borrell, à elle toute seule, elle allait faire le travail que beaucoup de diaspora et beaucoup d'opposants n'arrivaient pas à faire contre la France-Afrique, c'est-à-dire qu'elle allait ébranler le système. Et en 2002, Madame Borrell a vraiment ébranlé le système. Et c'est pas le moindre de mes honneurs, de ma fierté que d'être à ses côtés, d'être aux côtés aussi d'un précurseur qui est Monsieur Jean Houchal. Parce que Monsieur Jean Houchal est relativement modeste. Son associé, ils sont extrêmement modestes. Ils oublient de révéler ce qu'ils ont fait dans le dossier Borrell. Quand il fallait passer des informations, si j'ose dire, décisives pour aider Madame Borrell, beaucoup de Djiboutiens se sont arrangés pour les faire passer sur le site de la RDHD. Il y a un certain sergent Haricot, je me rappelle, qui disait des choses qui étaient en écho de certaines choses que je découvrais, moi, en parallèle sur la personnalité de M. Mouline et sur le rôle de M. Roussin et de M. Juppé dans le dossier de la Guinée équatoriale. Donc, je veux dire, on croisait les informations. Et c'est bien pour ça que le général Zakaria et Djibouti voulaient la déconnexion de ce site, parce que justement, comme M. Jean Houchal est un homme qui avait fait ses preuves, c'était un site où on savait très bien que les informations circulaient. Par exemple, comment est-ce que le grand reporter Nicolas Bernard est prévenu qu'il y a un témoin qui a réussi à fuir Djibouti et qu'il est en Éthiopie? C'est justement par l'entourage des gens qui alimentent le site de M. Jean Houchal. Ça, on ne le dit pas, mais je peux le dire, il est présent, il confirmera. Je veux dire, il y a une lettre qui a été envoyée à Mme Borrell, qui est reproduite dans Billets d'Afrique et d'ailleurs. Je vous renvoie au site où une personne anonymement parle d'un dossier qu'a choisi M. Borrell. Parce que ce que Mme Borrell n'a pas eu le temps de vous dire, c'est qu'on a enlevé tous les dossiers de son époux. Donc, il parle d'une faillite d'une banque, et la lettre est tellement précise et tellement explicite que ça renvoie à une partie d'un dossier qui est sur le site des assassinats de Copéran, qui, à mon avis, est connecté avec un dossier qui est emblématique de la France-Afrique, qui est l'affaire des faux dinars de Bahreïn. Et dans le dernier élément est l'assassinat en Espagne de Mandarini, un des opposants d'Hassan II, et qui était aussi un trafiquant notoire france-africain sur les bords. Je veux dire, l'affaire Mandarini, vous ne pouvez plus l'exclure de l'affaire des faux dinars de Bahreïn. Et les faux dinars de Bahreïn, c'est aussi bien Bongo, Déby, Sassou, mais vous avez aussi des gens comme M. Harifé dedans. Donc quand on voit l'espèce de médiatisation de l'enquête sur l'assassinat de M. Hariri, je vous renvoie au site pour lire les anciens numéros de billets. M. Hariri, c'était un pilier de la France-Afrique, c'était un des hommes les plus corrompus du Moyen-Orient. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Bon. Mais ça, si vous n'allez pas sur le site, et si vous ne lisez pas tout le travail qu'ont fait les gens de survie, et M. Verschav en particulier, vous avez l'impression que vraiment on est en train de défendre un combattant de la liberté. Il faut arrêter, quoi. Je veux dire, les magouilles financières autour de l'Angola Gate, de M. Rich, notamment, de M. Guédémac, une partie du dossier du pillage de la rente pétrolière au Congo B et Congo K, je veux dire, c'est une partie de l'affaire des faux dinars de Bahreïn. Il faut arrêter. Et si éventuellement, en 1994, à travers cette faillite de banque, M. Borrell, qui était un homme d'une rare intégrité, qui était un juge courageux, qui a été procureur à Lisieux, donc qui était procureur, c'est quand même ce qu'on fait de mieux au niveau du parquet, excusez-moi. Il faisait tout, je veux dire, à Lisieux. Donc, si cet homme a compris qu'il y avait quelque chose d'important derrière cette faillite et qu'il a mis au jour des choses qui pouvaient être compromettantes, notamment en 94, n'oubliez pas que 94, c'est une année cruciale dans la France-Afrique. Je veux dire, il n'est pas étonnant que ça n'ait pas arrangé, si j'ose dire, son dossier. Et si en plus, comme me dit Madame Borrell, son mari n'était pas connoté politiquement, il était livré lui-même. Personne ne l'a soutenu. Et tout le monde a été contre Mme Borrell, sauf un petit cercle de gens qui l'ont soutenu. Et une partie de ce cercle de gens qui l'ont soutenu sont sur une liste noire de gens à licencier dans le journal Libération. Donc je vous renvoie aux articles qu'ils ont écrits, qui sont justement, d'où l'intérêt d'avoir un site sur les coopérants, c'est que vous avez, à défaut d'avoir tout, vous avez au moins une base de données sur les articles et sur les extraits d'articles qui vous permettent de faire vous-même les recoupements. Parce que je suis comme M. Charles, je considère qu'il y a un travail à faire pour la vérité, mais ce n'est pas à moi de faire tout. Je considère que les familles ont un combat, Mme Ranger a son combat, Mme Borrell aussi. Mais par contre, si on peut donner à la plus grande masse des gens des informations qu'ils n'ont pas, par exemple, beaucoup de gens savent qu'il y a maintenant dans cette salle qu'il y a un appel pour la vérité dans le dossier de M. Borrell, qu'il a été signé par des personnalités politiques et de la société civile prestigieuse, je pense au juge Garson, au juge Alphen, qui sait ce que c'est, qui sait ce que c'est que la solidarité en matière de justice, qui a été signé aussi par M. Dujardin, qui à l'époque avait un problème d'hélicoptère, qui avait mis en examen Mme Tibéri, et on a envoyé un hélicoptère dans l'Himalaya pour aller chercher son supérieur hiérarchique, M. Davenaz. Bon, je veux dire, donc ce sont quand même des juges et des personnalités politiques ou de la société civile qui savent ce qu'il y a derrière ces dossiers-là et n'ont pas fait une signature de façon légère. Et je reprends le propos qui a été dit le 19 octobre dernier de certains magistrats, notamment italiens, qui ont donné la raison pour laquelle ils ont signé l'appel pour Mme Borrell. Ils ont dit, nous, on a eu des magistrats qui ont été tués, mais toute la République était derrière le cercueil. Eux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pourquoi pas un garde des Sceaux. Personne n'était à côté de Mme Borrell. Est-ce que vous savez que depuis 11 ans, pas un des gardes des Sceaux n'a reçu Mme Borrell? Mme Borrell n'a jamais été reçue par un garde des Sceaux. La République n'est pas derrière elle. Mieux, la République donne des médailles à ceux qui, justement, seraient les oui, mais j'aimerais... Oui, d'accord, je veux bien être près du micro, mais j'aimerais ne pas être interrompue. Merci. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la République est plutôt contre Mme Borrell. Que l'on entende des magistrats étrangers dire ceci, je comprends quelque part qu'il y ait eu autant de malaise lorsqu'il y a eu l'audience de M. Jean Luchat la veille de la mort, le 10e anniversaire de la mort de M. Borrell. Et d'ailleurs, lorsque votre avocat, M. Charles, a commencé sa plaidoirie, il était pas loin de 11h30, et il a dit, nous sommes à quelques minutes du 10e anniversaire, le président s'est écrit en disant, j'espère que vous n'allez pas plaider jusqu'à minuit. Maître Kadayoum s'est arrêté à 55, mais le président regardait sa montre. Bon, je pense que cet homme a fait montre d'un courage admirable. Il a été aussi courageux que son prédécesseur, qui était le président Montfort. Et je vous renvoie donc à l'ouvrage « Noir procès », parce que la 17e chambre correctionnelle a reçu aussi, abrité pendant 3 jours, le procès qui avait été fait à l'ouvrage auquel je vous renvoie, parce qu'il a l'avantage de parler du dossier de Mme Borrell et de la Guinée équatoriale, qui est « Noir silence ». Et donc le président Montfort a été suffisamment courageux pour relaxer Survie et son président, M. Verschave, des plaintes pour offense à chef d'État étranger des 3 présidents de l'époque, qui étaient M. Bongo pour le Gabon, M. Déby pour le Tchad et M. Sassou Nguesso pour le Congo-Brazzaville. Donc, mais revenons, si vous le permettez, à l'article coopération empoisonnée, parce que j'aimerais terminer sur la personnalité de M. Mouline. M. Mouline, comme le dit M. Midiba dans l'article, M. Mouline est allé au Rwanda en 1994. Et il a ramené, il a obtenu des choses qui sont en annexe du dossier de Rwanda, mais qui sont quand même. C'est pas parce que c'est annexe que ce n'est pas non plus grave. Il a obtenu dans des conditions douteuses l'adoption d'une fillette rescapée du génocide. Donc, je veux dire, quand vous regardez le profil de tous ces gens-là, à un moment donné, vous vous dites, bon, soit on est paranoïaque et on voit le mal partout, soit il faut catégoriser les gens. Madame Borrell vous a expliqué qu'à un moment donné, la partie civile qu'elle était n'a pas pu aller à Djibouti. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que beaucoup de parties civiles dans l'affaire de la Guinée-Équatoriale ont obtenu qu'il y ait des enquêteurs qui partent en Guinée-Équatoriale. Et le ministre des Affaires étrangères à l'époque a mis son veto, M. Juppé. Donc, dans le fait que Mme Borrell et ses avocats n'ont pas pu aller à Djibouti pour la reconstitution, il y avait aussi le fait que le Quai d'Orsay ne leur a pas vraiment donné un coup de main. Et surtout, et qu'en plus, Djibouti leur a refusé les visas. Donc, la Cour d'appel de Paris en 2000, lorsqu'elle décide de dessaisir les juges Mourakini et Lenoir, c'est parce que vraiment, c'était énorme. Comment est-ce que vous êtes une partie civile, vous apprenez par la presse qu'on se transporte à Djibouti pour refaire une reconstitution? Et surtout, il faut voir le contenu de la cassette, de la reconstitution. Madame Borrell a reçu cette reconstitution à Noël. Vous n'imaginez pas ce que ça peut être pour cette femme et ses enfants, de voir que, comme dit son avocat, on s'est moqué de nous. Madame Borrell, bon, je trouve qu'elle a un courage admirable, elle ne donne pas toutes les étapes de sa souffrance, mais je veux dire, moi j'ai en écho d'autres dossiers où vous avez de la souffrance, vous avez des luttes contre des juges d'instruction, que vous avez le sentiment qu'ils ne font pas correctement leur travail, et surtout le pire, je crois que la mort définitive d'un dossier, c'est quand on prononce le non-lieu. Il y a des non-lieux qui ont été prononcés dans tous les dossiers de la Guinée équatoriale. Et il faut savoir qu'un non-lieu en droit français, vous avez 12 ans pour le contester. Au-delà de 12 ans, on considère qu'il n'y a pas eu d'assassinat ou de meurtre ou de mort. Je crois que c'est la pire. Et pour le dossier de Mme September, en 2002, on a décidé qu'il y avait un non-lieu définitif. Et c'est là où il y a une espèce de rebondissement, c'est qu'en 2002, un journaliste français, qui a la particularité d'être un journaliste économique, d'être le journaliste d'un grand quotidien qui est quand même La Tribune, qui est le premier grand quotidien économique français, et qui a la particularité d'être aussi un militant de la société civile et d'être un ami intime de Mme September, se rend en Côte d'Ivoire parce qu'il accepte de faire l'audit de la filière cacao pour les petits producteurs et parce qu'il espère qu'avec ce travail-là, il va améliorer ce qui se passe en Côte d'Ivoire et parce que la Côte d'Ivoire vit une crise depuis 2000. 2 ans plus tard, il est enlevé et disparaît dans les rues d'Abidjan. Le 16 avril, très précisément. Bien. Alors, je vous renvoie au reste du dossier de presse, qui est ceci, qui sont des extraits d'un site internet qui s'appelle abidjan.net, sur lequel, puisque moi je m'intéresse aussi pour partie à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai eu la surprise de tomber sur des articles écrits sous pseudo pour 3 journaux d'opposition. Et je me suis, à un moment donné, en les lisant, je me suis dit, c'est curieux, ce n'est pas le style habituel des journaux, des journalistes ivoiriens. Mais pire, je me suis dit, j'ai l'impression de connaître cette écriture. Et je lis La Tribune assez régulièrement. Et surtout, ces articles parlent du fait qu'en pleine rue d'Abidjan, le président Gbagbo, qui est pourtant présenté comme un socialiste, a recruté comme chef mercenaire les assassins présumés de Mme September. Cet homme, il y a quelqu'un qui les a reconnus. L'un des deux, étant dénoncé par voie de presse, est arrêté et est en résidence surveillée donc depuis 2003. Et M. Kiefer disparaît. Donc j'ai eu à annoncer donc, aux journalistes, notamment de La Tribune, que M. Kiefer était l'auteur de ces articles. Alors, comme il faut donner, toujours prouver ce qu'on dit, je suis allée donc récupérer les archives des articles de La Tribune de M. Kiefer, je les ai joints avec ces 3 articles, et je mets au défi quiconque de me prouver que ce n'est pas lui qui les a écrits. Et donc, M. Kiefer ayant sorti un certain nombre de choses, ce serait donc les dernières informations qu'il aurait sorties avant sa disparition. Mais pire, il y a un certain nombre de recoupements que j'avais fait sur mon site internet. Et j'avais émis des connexions très précises entre le modus operandi de l'assassinat de Mme September et le modus operandi de l'assassinat de M. Borrell. Et j'ai appris par les parties civiles que M. Kiefer, avant de disparaître à Abidjan, 3 jours avant sa disparition, a envoyé un message pour dire qu'il avait vérifié une partie de ce que je disais et que c'était vrai. Il disparaît, donc j'ai une explication en tout cas pour savoir pourquoi on n'a jamais fait de procès à ce que je dis sur le site internet, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'avais dit « faites une contre-enquête ou faites-moi un procès », donc je peux vous rassurer, il n'y a jamais eu de procès. Mais surtout donc, ça veut dire que, quand on commence à s'occuper de dossiers d'assassinat en vérifiant qui a fait quoi avant, Et qui va faire quoi ? Ensuite, on peut se projeter, et pour la Mourakini, personne ne s'est trompé, en tout cas en ce qui concerne son fonctionnement dans le dossier de madame, dans le dossier de monsieur Morel, eh bien, on peut tomber sur des connexions, on peut les soumettre à contre-enquête, et il semblerait que pour l'instant, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ce que j'ai dit est vrai, et que donc, moi, j'avance comme hypothèse que le réseau, parce que c'est un réseau pour moi, qui est derrière la mort du juge Morel, est le même que dans le meurtre de Madame Septemer. Ceci explique que sur le site d'assassinat de Couperin, il y a deux entrées. Il y a l'accueil officiel et il y a aussi une entrée sur quatre assassinats politiques très précis qui sont celui de Madame Septemer, celui de Monsieur Palmeux, celui de Monsieur Régimbé, l'opposant de Monsieur Bongo en 92, et ensuite le quatrième étant un dossier un peu à part qui est l'assassinat du président Abdallah aux Comores, parce que pour moi, il y a un fil conducteur entre tous ces dossiers, et on ne peut pas traiter les assassinats de Couperin sans traiter tout l'ensemble. Et dernière information, Madame Morel, parce qu'on me dit qu'il faudrait ralentir et libérer la salle quelques minutes avant le débat avec elle, Monsieur Parlos, le magistrat, le quatrième magistrat, donc décidé qu'on allait faire une nouvelle autopsie du corps de M. Morel, est actuellement président d'une chambre, la 11e chambre correctionnelle. Et figurez-vous que devant lui ont eu le procès de ce qu'on a appelé l'affaire Thalès Thompson, qui est donc une partie des frégates de Taïwan. Et donc Thalès, c'était Thompson, et c'est aussi l'entreprise qui a fabriqué les missiles Mistral. Et qui était donc il y a des protagonistes dans ce dossier, notamment M. Gomez, qui en 88 était protagoniste dans le dossier de Mme Septemer.